Bon week-end.
Le podcast.
La semaine dernière, vous parliez de la différence entre l'homme et l'animal. Vous aviez fait une sorte de petite recherche par internet et vous êtes tombé sur pas mal de sites qui racontaient beaucoup de craques, hein, on peut le dire clairement. Vous étiez tombé aussi sur un moine hindou qui affirmait que nous sommes conscients de notre apparence parce qu'en nous existe une conscience individuelle qui fait que nous nous voyons différents des autres. Par contre, affirmait-il, un chien ne sait pas s'il est beau ou s'il est laid. Alors la question évidemment est toute trouvée. Les animaux ont-ils un visage ?
Alors, on peut traiter cette affirmation de ce moine hindou dont je rappellerai qu'il avait fait vœu de silence en 1952, mais je ne commenterai pas la nécessité de le respecter. On peut donc, je reprends, commenter cette affirmation de deux manières. On peut envisager d'une part de se demander, et c'est bien ce à quoi ce moine fait référence, si les animaux ont conscience d'eux-mêmes. J'en ai déjà parlé dans d'autres chroniques, j'y reviendrai d'ailleurs plus tard, mais je voudrais bien prendre l'autre affirmation, l'autre possibilité d'interpréter cette affirmation, et m'amuser à la comprendre, mais en lui donnant un sens totalement littéral. En fait, je vais détourner ce que le moine dit et dire « si les animaux ne se peuvent pas se trouver beaux ou laids, c'est peut-être parce que nous ne concevons pas qu'ils puissent avoir un visage ». Donc je vais poser la question « est-ce que les animaux ont un visage ?» Eh bien, il semble que poser cette question « les animaux ont-ils un visage ?» ou « comment peut-on dévisager les animaux ?» en faisant quand même remarquer que le terme « dévisager » dans ce cas-là, c'est intéressant, c'est à la fois dire que ils ont un visage, mais dévisager, en fait, c'est enlever un visage. Donc, c'est un peu étrange de penser que finalement, dévisager signifie donner un visage. Mais enfin, bon, laissons cela de côté. C'est déjà assez compliqué comme ça. Et en même temps, poser la question de ce qui nous rend sensibles au fait qu'il puisse avoir un visage. Donc, un visage, en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas en soi. C'est quelque chose auquel nous sommes sensibles. On pourrait se poser la question, si les animaux ont un visage, qu'est-ce qui nous rend sensibles à ce visage ? Alors, il y a des philosophes qui se sont posés cette question. Et le philosophe le plus fameux du visage, celui qui a le plus traité la question du visage, c'est Lévinas. Mais comme il était partisan de l'exceptionnalisme humain, il lui était difficile de dire que les animaux ont un visage. Sauf qu'il a quand même dit, à un moment donné, on ne peut pas entièrement refuser le visage à l'animal. C'est par le visage que, par exemple, nous comprenons un chien. Mais, ajoutait-il, je ne sais pas à partir de quel moment on a le droit d'être appelé visage. Je ne sais pas si le serpent a un visage. C'est lui qui le dit. En fait, en choisissant l'exemple du serpent, qui est quand même le symbole maléfique dans la tradition biblique, Lévinas, au lieu d'ouvrir l'hypothèse, je pense, l'a fermée. Mais en ouvrant la possibilité de penser que le chien a un visage parce qu'on le comprend, il dit quelque chose du visage. Il dit que c'est par là qu'on comprend les autres. Alors, je ne vais donc pas donner trop vite raison à Lévinas, en tout cas pour les chiens. Est-ce que c'est vraiment par leur visage que nous les comprenons ? Je n'en suis pas si sûre. Ou on pourrait poser la question inverse. Est-ce que le visage se définit comme un site de compréhension ? On y reviendra, mais je voudrais ouvrir la question en fait par encore un autre bout. Et je voudrais l'inverser. J'ai déjà compliqué assez les choses. Maintenant, je vais complètement retourner le problème en disant, mais tout compte fait, avant de penser si les animaux ont un visage, est-ce que nous avons un visage pour les animaux ? Et en fait, cette question, je ne suis pas la seule à la poser, puisqu'il y a un spécialiste des corvidés, un spécialiste américain qui s'appelle John Marsluf, qui avait remarqué que lorsqu'il capturait pour les baguets des corneilles dans la région de Seattle, notamment sur le campus où il travaille, de l'université où il travaille, eh bien, celle-ci, visiblement, se souvenait de la capture et tenait ses distances par rapport à lui. Donc, ce qui prenait l'allure d'un parasite dans les recherches, puisqu'il devait faire attention à ne pas être reconnu par les corneilles, puisqu'elle se mettait à avoir peur de lui, en fait, il s'est dit, ce qui est un parasite dans les recherches, je vais le transformer en question. Et il va tester jusqu'où et comment les corneilles le reconnaissent. Alors, il va utiliser un dispositif assez particulier. Il va engager des volontaires et il va leur demander de porter un masque. Et ce masque, les volontaires doivent le porter pour s'approcher des corneilles. Mais ce n'est pas n'importe quel masque. C'est un masque que des chercheurs ont eux-mêmes porté pour capturer des corneilles. Et un masque assez caractéristique. Eh bien, le résultat ne s'est pas fait attendre. Un masque en caoutchouc, un peu comme les bandits dans les films pour faire des cambriolages.
Des braquages.
Mon ignorance crée ma vertu. Eh bien, voilà. Donc, ces volontaires portent le masque que les chercheurs ont porté auparavant, les chercheurs ayant capturé des corneilles, et qu'est-ce qu'on voit ? Le résultat ne se fait pas attendre. Les corneilles, quand elles voient apparaître le masque, tout de suite lancent les cris d'alarme. Et on remarque non seulement qu'elles lancent un cri d'alarme, qu'elles s'éloignent, mais que le cri d'alarme, en tout cas le message d'alerte, va se transférer à d'autres, puisque peu de temps après, l'apparition de ce seul masque, enfin pas tout seul, il est sur le visage d'un volontaire, suscite une alarme générale et parfois même des conduites de menace. Donc il y a des corneilles qui vont faire semblant d'attaquer les volontaires.
Ah oui.
Donc, et le processus fonctionne même si les volontaires portent d'autres vêtements que ceux que les chercheurs ont portés. Et le fait, par exemple, qu'ils portent un chapeau ne diminue rien à la reconnaissance. C'est vraiment le masque. Par contre, si un autre masque est porté, présentant un autre visage, par exemple celui de Dick Cheney, mais c'est ce qu'ils avaient décidé de faire. Les corneilles ne manifestent pas cette réaction. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aurait bien un visage pour les animaux. Et c'est d'ailleurs étonnant que pour en avoir un, il nous faille porter un masque. Rien n'est donc simple dans cette histoire. C'est pourquoi je vous proposerai d'y revenir la semaine prochaine.
Bon week-end.
Les samedis et dimanches de 6 à 8 heures sur la Première.